jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer? Comment la science infuse?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, autour de notre table ronde mensuelle et virtuelle, confinement oblige, en compagnie de nos consoeurs et confrères de la presse scientifique, qui depuis leur rédaction respective vous offriront comme chaque mois, vous le savez, quelques exemplaires de leur magazine à gagner. À commencer par une nouvelle formule enrichie pour la recherche, désormais trimestrielle, nous en parlerons avec Philippe Pageau, son rédacteur en chef, à suivre avec Cécile Estienne de Cerveau et Psycho, Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, avec qui nous tenterons entre autres de récupérer des échantillons martiens, mais aussi de nous évader au centre de la Terre et jusque dans l'univers quantique, tout en découvrant au passage comment le chat nous a domestiqués. Et oui, c'est dans ce sens-là que ça a marché. Et surtout qu'il est possible de grandir malgré les épreuves et l'adversité, et ça c'est bon pour le moral. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, bienvenue. Bonjour les amis, bonjour Cécile Estienne de Cerveau et Psycho.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Eh oui, ravie de vous entendre, même si ce n'est que vous entendre et pas vous voir Cécile. Bonjour Thomas Cavalier-Foll pour Science et Vie.
Bonjour Caroline.
Bonjour Philippe Hénarejos, Ciel et Espace, vous êtes bien présent.
Bonjour, oui, bonjour.
Bonjour ici la Terre et bonjour Philippe Pageau pour la recherche.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour Philippe, ravi de vous retrouver tous sur le fil et à l'autre bout de notre fil numérique pendant que je vous tiens, si j'ose dire, tous les quatre. On va commencer par faire un petit point d'actualité scientifique. Bon, c'est pas très gai, ça c'est sûr, autour de la Covid-19. Thomas Cavalier-Foll, dans Science et Vie, vous avez mené l'enquête, hein, c'est la une, hein, sur les vaccins en préparation. Où en est-on? Que peut-on attendre, espérer pour quand un vaccin qui soit non seulement prêt, fiable, mais aussi et surtout efficace?
Oui, c'est un peu la grosse question aujourd'hui. C'est sûrement le vaccin le plus attendu de l'histoire. Et en fait, pourtant, c'est répondre à une pandémie par un vaccin, ça est mine de rien un peu paradoxal, parce qu'une pandémie, c'est une propagation brutale. Et c'est un peu l'exact opposé du rythme de développement laborieux d'un vaccin qui nécessite de caractériser le pathogène, de comprendre comment le corps organise sa défense, de regarder son innocuité. Donc en fait, là, on est dans une course folle. Qui n'a jamais été vu dans l'histoire. Normalement, un vaccin, la moyenne de temps de développement d'un vaccin, c'est 10 ans. Et là, on espère en une année avoir un vaccin. Il y en a déjà 10 mois après la caractérisation du virus. Il y en avait déjà 193 testés et 42 en phase chez l'homme. Quoi.
Donc ça va à la fois très vite, mais en même temps, c'est très compliqué de trouver un vaccin dans ce laps de temps si court et aussi de le fabriquer.
Ouais, ça met plein de défis en fait, que sont d'abord la caractérisation, est-ce qu'il va marcher, est-ce que les effets secondaires, est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires, est-ce qu'on va pouvoir le distribuer, effectivement, comme vous l'avez dit, rien que imaginer une dose pour chaque personne sur la planète, ça nécessite, je crois, 8000 avions cargo de type 747 pour être distribués partout. Certains vaccins doivent être conservés à moins 70 degrés. Enfin, il y a plein de défis qui se lancent plein de défis. Et si on y arrive, par contre, ce sera un succès incroyable.
Ouais, donc on attend, on croise les doigts et puis on guette aussi du côté des traitements et on guette aussi du côté de la manière dont on peut vivre, traverser tout ça, même si on le traverse très différemment, hein, d'un côté à l'autre de la planète. Philippe Pageau, dans cette nouvelle formule, hein, on va revenir de la recherche, hein, le magazine de référence scientifique qui est devenu trimestriel. Vous vous êtes penché avec des chercheurs en neurosciences justement sur la peur et sur l'anxiété face au Covid.
Oui, tout à fait. Justement, l'anxiété, les séquelles justement sur la santé mentale de cette situation, ils peuvent provenir de plusieurs choses. D'abord, du stress, effectivement, duré pendant l'épreuve, qu'il s'agisse de confinement, d'isolement, de toutes ces situations un petit peu stressantes que nous vivons au quotidien, mais aussi en fait par les malades eux-mêmes, par l'action directe de l'infection sur le cerveau. Et en fait, il y a une sorte de réponse immuno-inflammatoire qui est sur le cerveau, qui peut également déclencher des phénomènes d'anxiété.
Donc il faut vraiment surveiller ça et surveiller à chaque instant.
Tout à fait. Et il n'y a pas eu non plus d'accroissement de tests post-traumatiques ou de suicides pendant le premier confinement. Mais en fait, les spécialistes redoutent un effet de latence, en fait, des choses qui peuvent se déclencher justement après et maintenant. Donc là, il faut continuer à surveiller de très très près.
Vigilance, vigilance. Cécile Estienne, vous, dans Cerveau et Psycho, j'ai envie de dire que vous vous avez choisi le côté positif de la force. On va y revenir, hein, parce que vous avez un très beau dossier sur l'adversité et les épreuves qui peuvent aussi nous faire grandir. Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette actualité pandémique?
Disons qu'en attendant, ce qui est sûr, ce que la difficulté là, c'est l'incertitude. Comme j'en avais déjà parlé là, notre cerveau n'aime pas du tout l'incertitude. Nous sommes pas câblés pour ça, parce que ça provoque de l'anxiété. Donc la question, c'est aujourd'hui, on le sait bien, les choses ne font pas se résoudre du jour au lendemain. Donc l'idée, c'est comment faire pour ne pas paniquer, parce c'est que la panique est mauvaise de conseillère, n'est-ce pas ? Et le savoir déjà qu'on n'est pas fait pour l'incertitude et tout, c'est déjà une source de, je trouve moi, de ça fait tomber un petit peu un petit peu l'angoisse, parce que il faut s'atteler à ce nouveau marathon. Mais il y a de quoi espérer, je pense.
C'est ça, être lucide, espérer. Garder la tête plus ou moins froide ou accepter quand on la garde pas froide, mais savoir que ça ne va pas durer toujours. Bon, les perspectives pour la recherche, il y en a. On a de l'espoir, on peut avoir de l'espoir. Aujourd'hui est une journée aussi quand même un peu particulière sur toute la planète, puisqu'on est en plein incertitude face aux élections américaines. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les prévisions ne soient pas au beau fixe. Alors, on va pas parler de ça, on n'est pas une émission politique, on est une émission de science et de recherche. Philippe Hénarejos, mais vous, puisque dans Ciel et Espace, vous vous intéressez aux astronomes et aux astronautes, vous avez quelques informations électorales et astronomiques à nous faire partager.
Et oui, aux États-Unis, il n'y a pas que l'élection présidentielle qui se déroulait la nuit dernière. Il y a aussi les élections au Congrès, en particulier au Sénat. Et il y a un nouveau sénateur qui vient d'être élu. Lui, c'est sûr, le résultat est définitif. C'est Mark Kelly. Mark Kelly, c'est un ancien astronaute de la NASA qui a fait 4 vols à bord de la navette spatiale. Il s'est présenté sous l'étiquette démocrate. Et donc, il vient d'être élu dans l'Arizona.
Ah ben, bravo.
Mark Kelly est connu pour être le jumeau d'un autre astronaute, Scott Kelly, qui, je ne sais pas si vous en souvenez, avait passé quasiment un an en une seule mission dans l'espace.
Mais...
Et il y avait des expériences qui avaient été menées
entre les deux jumeaux,
l'un dans l'espace, voilà, et l'autre sur Terre. Donc, Mark Kelly, maintenant, va essayer de peser de son poids de sénateur à Washington, sans doute pour ce qui concerne les questions spatiales, mais pas uniquement. Bon, il a fait une campagne aussi qui était avec un discours politique. Mais en tout cas, c'est le 4e astronaute de la NASA à accéder au Congrès. Il y avait eu John Glenn, le premier astronaute en orbite américain. Il y avait eu Harrison Schmitt, le dernier homme à marcher sur la Lune. Et il y avait eu John Swigert d'Apollo 13, dont on l'a oublié. Il a été élu, mais malheureusement, il est mort juste après son élection, quelques mois après son élection, à la Chambre des représentants. Il n'a jamais siégé. Donc Mark Kelly est le 4e astronaute à se lancer en politique et à être élu au Congrès américain.
Eh bien, bravo à Mark Kelly, l'astronaute. Au Laker donc. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse? Alors on vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que vous pouvez gagner quelques exemplaires de tous les magazines dont nous allons parler au cours de cette émission, que nous allons feuilleter ensemble, histoire d'élargir un peu notre perspective à la fois intérieure et extérieure, inside, outside, avec Gaëtan Roussel sur RFI. Que pourrait-il bien nous arriver? Inside, outside, seen, but it's coming back.
Cherchez à toujours tout retenir. Que pourrait-il à l'avenir? Si l'on restait là sans bouger, si l'on restait à toujours tout retenir, que pourrait-il nous arriver? Si l'on cherche, que pourrait-il à toujours tout retenir, est-il à l'avenir? Si l'on restait
tu as toujours tout reconnu. Et à toujours tout retenir. Si l'on restait là sans bouger, que pourrait-il nous arriver?
On ne va pas rester là sans bouger. Inside Outside avec Gaëtan Roussel sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse malgré tout, malgré toutes les épreuves et adversités que nous traversons, chacun à notre manière, individuellement et collectivement, sur tous les coins du globe. Il y a tout de même une bonne nouvelle, Cécile Estienne, que vous partagez dans le dossier de ce mois de Cerveau et Psycho. Le dossier s'intitule « Grandir malgré les épreuves ».
Oui, et le sous-titre, c'est les promesses de la croissance post-traumatique.
Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette croissance post-traumatique?
Eh bien, c'est un concept émergent en psychologie. Et, si vous voulez, autrement dit, c'est la version scientifique de la vieille expression « à quelque chose, malheur est bon mm-hmm. ». Donc, vous allez dire que ce n'est pas très nouveau. Et effectivement, ce n'est pas une nouvelle capacité qui aurait surgi soudainement dans le cerveau des terriens du 21e siècle. Mais le fait que la science se penche dessus, que la psychologie commence à formaliser ce concept, nous dit quelque chose quand même et nous permet surtout de prendre conscience, de regarder autrement certaines de nos capacités dont peut-être en ce moment nous avons particulièrement besoin. Mmh. Donc, pour expliquer ce que c'est que la croissance post-traumatique, je peux peut-être le faire par rapport à la résilience, qui est certainement un concept beaucoup mieux connu des auditeurs aujourd'hui.
La résilience, on connaît entre guillemets, on sait que c'est après un drame, c'est la capacité de revenir, de récupérer après un drame, c'est ça?
Absolument, après un traumatisme difficile, que ce soit la mort de quelqu'un ou un viol, ou enfin bon, de toute façon l'idée là n'est pas de faire une hiérarchie des traumatismes, mais après une période très difficile, on peut traverser des périodes de sidération, de dépression, voilà, mais l'être humain est capable, notamment s'il trouve un tuteur de résilience, de reprendre son développement là où il s'est arrêté. Bon, ça c'est la résilience, on reprend son développement. La croissance post-traumatique, c'est autre chose, c'est après un traumatisme effectivement difficile de la même façon. Ce n'est pas qu'on reprend son développement, c'est qu'on change, c'est qu'on se transforme et plutôt, semble-t-il, pour devenir une personne meilleure. Ou plus exactement, disons que les individus se sentent devenir des personnes meilleures. Parce que je ne veux pas mettre de côté moralisateur dans cette histoire.
Oui, mais, oui, bien sûr.
Mais c'est pas de la science, la morale, mais voilà. Mais les autres se sentent quelqu'un de mieux. Voilà.
Et quand vous citiez, par exemple, à toute chose, malheur est bon, Cécile Estienne, est-ce qu'on pourrait aussi citer ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort? Enfin, quelque chose de cet ordre-là?
Oui, effectivement, même si parfois on n'est pas toujours plus fort, mais il y a de ça dans cette histoire de croissance post-traumatique. C'est un concept qui est né, je vais donner un exemple, ça va être plus facile à comprendre, oui. Qui est né dans le monde anglo-saxon, chez les Anglais et les Américains notamment, qui avaient étudié des gens qui notamment survécu à de graves accidents, genre des ferries qui avaient coulé, donc ils avaient échappé à la mort, ils avaient vu des gens mourir, enfin bon, c'était des choses très difficiles. Et ils s'étaient aperçus après, quelques mois ou quelques années après, que non seulement les gens, après évidemment un passage très difficile, en fait, se sentaient mieux, disaient se sentir mieux, c'est-à-dire avaient meilleure confiance en eux, avaient développé l'empathie envers les autres, avaient retrouvé finalement ou trouvé un nouveau sens à leur vie. Voilà. Et en fait, pourquoi justement, peut-être parce que on utilise cette capacité très très humaine de donner du sens même à ce qui n'en a pas.
Ouais. Voilà. Trouver du sens à nos vies, nous développer, et même être entre guillemets fier ou heureux d'avoir pu surmonter une telle épreuve, il y a ça aussi.
Oui, effectivement, il y a ça, il y a cette idée que souvent passer la première phase de traumatisme, on est effectivement sidéré, on est en pleine récupération, mais pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce que c'est, enfin bon, et qui peut passer par une phase vraiment dépressive. Mmh. Il y a aussi cette question, justement, pourquoi ça m'est arrivé? Et parfois, on trouve un sens. On se dit, bah, peut-être que ça m'est arrivé parce qu'il fallait que je m'occupe plus de ma famille ou parce que finalement, j'ai décidé de faire ce que je m'étais toujours interdit de faire, mais que j'ai envie de faire. Mmh. Ou je vais profiter de la vie, pas forcément dans un sens purement égoïste, hein, mais au moins savourer de ce que la vie nous apporte. Et peut-être que c'est un sens a posteriori, c'est même forcément un sens a posteriori, mais ça aide vraiment notamment à surmonter l'épreuve, mais parfois à changer de vie, à changer effectivement de travail, de façon à développer son empathie notamment. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages, développer son empathie, c'est-à-dire que j'ai, moi, échappé à la mort, ou j'ai échappé au désespoir, etc. Du coup, je peux peut-être mieux comprendre les gens qui vivent aussi des difficultés. Voilà, j'ai survécu, donc effectivement, je me sens plus fort, ou j'ai plus confiance en moi.
C'est ça, et donc je suis capable
de faire des choses.
Et j'ai peut-être aussi accepté de changer ou de me rapprocher de choses, de faits qui étaient plus importantes pour moi que tout un tas de futilités. Il y a peut-être aussi, c'est de cet ordre-là, hein, quand j'ai lu le dossier sur le fait qu'on peut grandir après une épreuve, c'est ça qui surgit aussi.
C'est ça, c'est parce que finalement, donc, si j'ai échappé à quelque chose de terrible, peut-être même à la mort, qu'est-ce que je fais du temps qui me reste ?
Voilà.
Et c'est une question évidemment fondamentale, et on se dit que c'est important d'y réfléchir et de faire les bons choix. Alors,
aujourd'hui, c'est important de se dire ça. Hein.
Exactement. Alors, c'est un concept émergent, comme je disais, en psychologie. Donc, il y a eu quelques études comme celle que je viens de citer. En même temps, on manque encore de données. Par exemple, les différentes études disent qu'après un traumatisme, entre 3 et 98% des victimes s'engagent dans un tel processus de croissance post-traumatique.
Bon, j'ai bien entendu entre 3 et 98%. Ça. Ah oui, d'accord.
Oui,
là,
ça veut dire que la fourchette ne veut rien dire.
Bien sûr.
Évidemment, ce qui veut bien, ce qui signifie qu'il va falloir faire de nouvelles études, mieux les standardiser, surtout pour pouvoir mieux le montrer et le démontrer. Mais on le voit, enfin, de toute façon, je pense que tout le monde a des
exemples
autour de soi, de gens
sûr.
Qui ont besoin de ça. Et aussi, la question qui se pose, c'est que ça, c'est un chemin individuel, évidemment. Et est-ce qu'il peut y avoir une croissance post-traumatique collective ?
Ah, magnifique
question.
C'est la question
que se pose notamment Steve Taylor, un psychologue anglais qui a travaillé sur les attentats terroristes de Manchester, qui pose dans ce dossier. Et donc, bon, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Peut-être que tout ne va pas aller bien de façon facile, mais peut-être que oui, notamment, prendre conscience de ça est important, et prendre conscience aussi que ça ne vient pas forcément tout seul, cette croissance post-traumatique. Il faut savoir en parler, il faut savoir le partager, effectivement, et travailler. L'idée, c'est de passer, d'accepter, comme je le disais tout à l'heure, pas dans l'idée de se résigner à ce qui est arrivé, mais d'accepter de mettre des mots sur ce qui arrive, de dire qu'on n'est pas tout seul. Et là, dans ce traumatisme du Covid, évidemment, on n'est pas tout seul, le monde entier est touché, plus ou moins, mais on est tous touchés. Et donc, si cela développe justement l'empathie et le besoin de se réaliser, peut-être que les biens communs prendront plus d'importance.
C'est le meilleur.
Il faut y travailler.
Et voilà, exactement. C'est vraiment le meilleur qu'on puisse nous souhaiter. Et en tout cas, ça donne des pistes, un chemin. Hein. Ça donne à lire, en tout cas, grandir malgré les épreuves. J'ai envie de dire presque, comme le disaient hier Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, qui étaient nos invités, avec les épreuves. Dossier passionnant à lire donc dans Cerveau et Psycho de ce mois de novembre, dont nous avons, je vous le rappelle, quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs libres et curieux. En attendant, on part à la recherche pour retrouver les grandes voix de la recherche, la nouvelle formule du magazine du même nom, après avoir écouté d'autres voix plus rappeuses, celles de Grand Corps Malade, Oxmo Puccino et Kerry James, réunis sur ce morceau à la recherche sur RFI.
Nos vies sont des quêtes, nos cœurs s'éclairent à la lueur des plus belles lettres, à la recherche de l'art. Artiste, dérangé, dérangeant, car y a pas d'Arlis, parce qu'elles ne sont qu'à la recherche du succès. Les étoiles d'une seule nuit se succèdent, puis à l'aube disparaissent, paraissent un souvenir passager comme une caresse. Nous on est à la recherche de l'excellent. Alors le prochain vers n'est jamais comme le précédent. On cherche des réponses sans comprendre les questions. On recherche le bonheur en ignorant sa définition. Comme Fabien à la recherche de l'humilité. Être humain en osmose à la recherche de l'humanité. Pour une fois que nos chemins se croisent, il faut que je sois déjà à la recherche de ma dernière phrase. À la recherche.
Chacun sa quête.
Chacun son but.
Son art des lettres.
Sa manière d'être. À la recherche. À la recherche.
Chacun sa quête.
Chacun son but.
Son art des lettres.
Sa manière d'être.
À la recherche.
Un ballon dirigeable avec mon blaze dessus. C'est ce qu'il fallait pour la promo. Les oiseaux ne seraient pas déçus. Je cherche plus. Le but, ne pas paumer ce que t'as trouvé. Les cons écoutent, celui qui ne peut prouver. Me fout d'où je vais, ma boussole c'est le cœur. Le ciel couvert de points d'interrogation géants. On sait tous qu'il n'y a pas de réponse, pourtant on prend de l'élan. Je donne du mal pour captiver le lecteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je chill avec de grands poètes, les gens nous applaudissent. Quand j'étais mini, je visais déjà l'infini. N'importe quoi la quête, mais pas inutile. Trop perché pour être à la recherche. Ce que l'on recherche ne compte pas, c'est le chemin qui prime. Que des kings, c'est pas tes potes, grand corps et Kiri qui l'eût cru. Y'a que le slip qui rime, je signe Puccino à la recherche.
Oxmo Puccino, Kerry James, grand corps malade sur RFI. Et oui, tous les trois à la recherche, comme nous, à la recherche, en quête. Titre de circonstance autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Pour découvrir précisément ensemble cette nouvelle formule de la recherche, le magazine de référence scientifique devenu trimestriel. On est très content de vous retrouver, Philippe Pajot, même si c'est par téléphone, un report-it interposé. Alors, dans quel esprit avez-vous pu recréer, j'ai envie de dire, ce magazine? D'abord, sa une est assez alléchante, hein, c'est tout un programme univers et physique quantique. Qu'est-ce qui a été... comment avez-vous pu...
Oui, Philippe. D'abord, c'est plus qu'une nouvelle formule, effectivement, c'est vraiment un renouveau. Pas peur des mots, en fait, c'est vrai qu'on fêtait cette année nos 50 ans et donc on voulait vraiment changer les choses, changer mais sans bouleverser non plus et sans devenir
quelqu'un d'autre, notre
perdre notre lectorat. Et donc du coup, sur le fond, effectivement, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on fait, c'est qu'on retrouve les fondamentaux en fait qui ont fait la réputation de notre magazine, hein, avec des longs articles écrits par des chercheurs, mais avec des éditeurs, qui des journalistes de l'équipe qui essayent de rendre ça le plus digeste possible. Autrement dit, on reste quand même dans l'ADN du magazine, l'ADN historique.
Qui est de faire parler les chercheurs, de leur donner la parole et la plume, hein, c'est vraiment ça. Hein.
À parler les chercheurs, à la recherche, la quête de la science, hein, tout à fait comme la chanson que nous venons d'entendre. Et à côté de ça, sur la forme, on a voulu faire un produit assez différent, une sorte de ce qu'on appelle un magazine livre, un MOOC, M-O-O-K, dont on entend beaucoup parler en ce moment, avec des articles plus longs que ce que nous faisons d'habitude, donc vraiment avec des choses, hein, on a le temps d'aller dans le fond, des sujets très variés, et puis une attention particulière aussi portée à l'illustration et à l'infographie et à l'aspect de ce magazine.
C'est par exemple, très bel objet en couleur.
Hein. Oui, tout à fait, un très bel objet à 150 pages, donc quelque chose de vraiment... qui tient bien en main un bel objet. Donc, pour donner quelques exemples, par exemple, il y a une fresque de l'histoire humaine qui relate en dessin et en texte tous les événements biologiques, culturels, environnementaux qui partant des premiers protoprimates aboutis à l'espèce humaine 65 millions d'années plus tard. Par exemple, des articles de mathématiques, un article de maths où un mathématicien essaie de nous raconter une recherche en cours en allant assez loin. Donc vraiment...
Il y a de quoi lire, il y a de quoi voir. Il y a aussi Roger Penrose, hein, le prix Nobel de physique 2020.
Oui, alors il se trouve que nous faisions notre dossier central. Alors, ce magazine s'organise autour d'un dossier central d'une quarantaine de pages, donc quelque chose d'assez conséquent. Et le thème que nous avions choisi, c'était les origines quantiques du cosmos, univers et physique quantique. Et évidemment, quand on a appris que Roger Penrose avait le prix Nobel, il se trouve que j'avais rencontré il y a 3 ans à Oxford et on a profité pour passer un texte, un entretien que j'avais fait avec lui. Et on a évidemment été extrêmement contents de ce prix Nobel, hein, puisque la relativité générale pour laquelle il a été récompensé par ce prix Nobel, c'est évidemment tient une place centrale dans la connaissance de l'univers.
Et dans toutes ces questions de physique quantique, de trous noirs, dans lesquels on va revenir nous aussi d'ailleurs autour de la question avec Françoise Combes, hein, autre cosmologue de renom qui a eu la médaille d'or du CNRS cette année. L'année dernière, je crois, c'était Barbara Cassin, la grande linguiste philologue, qui est aussi Barbara dans ce Cassin. Numéro de la recherche. Hein.
Tout à fait. Donc là, on a fait un entretien également avec elle, où elle nous relate un petit peu sur son opinion sur la diversité des langues, l'importance de la diversité des langues, et comme quoi il fallait pas niveler toutes les langues, à quel point c'était important. Donc, tout à fait.
De l'importance de la diversité, donc plein de sujets variés, vraiment un bel objet à lire, à relire, La Recherche, le magazine de référence scientifique. Oui, Philippe ?
Alors, je disais qu'il était disponible à partir de demain, en kiosque. Alors, normalement, il devait être disponible dans les librairies, mais évidemment, là, c'est un petit peu raté.
Avec le confinement, oui.
Évidemment, mais il est achetable en ligne sur notre site avec les frais de port offerts. Donc voilà, j'en profite.
Ah, mais vous avez raison d'en profiter. Donc on mettra le lien sur notre page. Je rappelle, c'est la nouvelle formule trimestrielle, un MOOC, hein, donc à acheter en kiosque, comme vous l'avez dit, à acheter en ligne. Numéro donc de novembre à janvier 2020. Et nous avons bien sûr un exemplaire, hein, pas beaucoup, mais un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook autour de la question. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier, hein, chers amis, pour vos messages et vos questions. Je sais que vous êtes nombreux à vous passionner pour tous nos sujets, ce que nous interroger ensemble, pour toutes nos questions, tout particulièrement d'ailleurs pour tout ce qui touche au spatial. Nous serons d'ailleurs en ligne dans quelques minutes avec Philippe Hénaréchaud de Ciel et Espace pour récupérer peut-être quelques échantillons de Mars. En attendant, on embarque tout de suite dans l'espace avec Mademoiselle K sur RFI.
Dans l'espace, pas de son. Ils ont peur de perdre ce qu'ils sont. Si tu tends bien les yeux, tu peux les voir. Des gars, sur Terre, ils n'avaient plus les pieds. Alors, ils ont creusé des cratères, se sont enterrés.
L'espace avec Mademoiselle K et avec vous Philippe Hénaréchaud sur RFI autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque sur Mars, puisque Ciel et Espace fait sa une, son gros dossier sur le scénario du retour d'échantillons de Mars.
Oui, puisque c'est cette aventure d'aller chercher un morceau de Mars et de le ramener sur Terre, en fait, elle est déjà en cours, puisque la sonde américaine Perseverance, qui a été lancée il y a quelques mois, est actuellement d'ailleurs à mi-chemin entre la Terre et Mars, et va se poser au mois de février, pour aller arpenter le fond d'un cratère martien où il y a un ancien delta fluvial, pour y ramasser des échantillons comme d'autres rovers l'ont fait avant lui, mais surtout pour les mettre dans une espèce de petite boîte de conserve qu'il va garder à bord avant de trouver un endroit où la poser par terre pour que plus tard, une autre sonde vienne la chercher, chercher la boîte de conserve, la mettre dans une fusée qui redécollera de Mars et qui reviendra l'amener sur Terre. Donc cette aventure est déjà commencée et nous décrivons dans Ciel et Espace le scénario aussi connu qu'il soit aujourd'hui de cette manipulation qui est quand même extrêmement ambitieuse et compliquée.
Mais clairement, qui soulève énormément de défis, hein, vous l'avez dit. Déjà, il faut recueillir ce que d'ailleurs dans le numéro de Ciel et Espace, ce que l'astronome Sylvestre Maurice qualifie de trésor de l'humanité. Il faut recueillir ces échantillons martiens, il faut les mettre dans une boîte de conserve, il faut les poser ailleurs et il faut pouvoir ensuite les faire revenir sur Terre. Attendu quoi ? Pas tout de suite, hein, bonne dizaine d'années. Hein,
le retour sur Terre, si tout va bien, est prévu pour environ 2031. Et j'insiste plus sur le environ que sur le 2031. Ouais. Parce que dans le spatial, il y a parfois du retard. Si tout va bien, il devrait y avoir deux lancements en 2026 et 2028. L'un pour un orbiteur, l'autre pour un atterrisseur. Alors, ce sont deux vaisseaux qui seraient différents, mais il faut savoir que l'Europe est impliquée dans ces vaisseaux-là. L'Europe ferait en particulier le rover, c'est-à-dire l'espèce de robot à roulettes, irait chercher la boîte de conserve pour aller avec son petit bras mécanique, la mettre ensuite à l'intérieur de la fusée qui, elle, sera américaine, qui se sera posée sur Mars et qui redécollera pour l'orbite. Et qui devra rejoindre un orbiteur qui lui aussi sera européen, qui sera en orbite autour de Mars, qui attendra là, et il y aura un rendez-vous en orbite martienne avec, a priori, le transfert des échantillons dans l'orbiteur, qui va se transformer en vaisseau interplanétaire pour revenir vers la Terre et larguer la petite capsule dans l'atmosphère terrestre en 2031.
Et c'est extraordinaire quand même, quoi, aventure. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction et pour une fois de collaboration, alors interplanétaire et intersidérale, c'est ça, hein ?
Ah bah oui, là, il y a clairement plusieurs acteurs et ce qui est enthousiasmant, c'est que effectivement, on aurait enfin quelques grammes de roches martiennes, ce qui n'est toujours pas le cas. Hein. On l'a indirectement, on a des météorites qu'on considère être venues de Mars.
Mais, qui sont tombées sur Terre.
Voilà, avoir un échantillon dont on sait à quel endroit on l'a ramassé, dans quel contexte géologique on l'a, et pouvoir, par exemple, tout simplement le dater de manière absolue dans un laboratoire terrestre, parce que ça, on ne peut pas le faire sur place. Il faut ramener les roches, comme on l'a fait pour la Lune. Ça serait déjà extraordinaire, parce que, par exemple, toute la chronologie qu'on a établie de l'histoire de Mars, qui est faite juste à partir de photos, d'interprétations à distance de ce qu'a pu être la géologie au cours des âges. Mmh. Donc, c'est l'histoire, en termes de relatif, elle a l'air de se tenir, elle est cohérente, mais une fois qu'on aura un point de mesure absolu, on saura si c'est plus ancien ou plus récent dans le temps. Donc, ça risque déjà d'apporter énormément à la science dans la compréhension de l'histoire de Mars. Donc, cette aventure à laquelle on consacre 22 pages,
oui, il y a de quoi y consacrer 22 pages, d'autant plus que quand même derrière cette extraordinaire aventure de récupérer et d'étudier sur Terre des échantillons martiens, il y a quand même l'énorme question de savoir si oui ou non la vie a existé sur la planète rouge, c'est ça, hein ?
Ben oui, exactement. Là, le cratère G0, c'est le nom de ce cratère dans lequel va se poser Perseverance. Il n'a pas été choisi au hasard. Et on voit bien qu'il y a eu des traces d'écoulement. Il y a deux fleuves qui se déversent dedans. On fait plus qu'imaginer. On a de fortes présomptions pour dire que ce cratère, qui a fait quand même plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, a été rempli complètement par de l'eau, que ça a duré un certain temps. Alors, je suis volontairement imprécis parce que les géologues le sont eux-mêmes.
Et oui, bien
évidemment,
sûr.
On n'a toujours pas cette datation. Mais donc, peut-être qu'en plus, parmi ces échantillons de G0, il pourrait y avoir un double trésor, c'est-à-dire qu'il y aurait toutes ces informations dont je viens de parler, mais en plus, qui sait, peut-être des indices d'une vie passée qu'on pourrait étudier sur Terre. Donc, c'est vraiment un endroit crucial.
Il y a de quoi faire, donc pour en savoir plus, donc le dossier est à lire dans Ciel et Espace, hein, sur ce scénario de retour d'échantillons martiens. Il y a une autre enquête, peut-être un peu moins enthousiasmante, auquel vous consacrez quelques pages dans Ciel et Espace, c'est sur la part du spatial dans la pollution, dans le réchauffement, enfin l'impact de l'industrie spatiale sur la pollution.
Mais oui, au fond, on se pose tous, en tant que citoyens de différents pays, ces questions qui nous taraudent beaucoup. Quelle est la part de l'automobile, de l'avion, de différents moyens de transport et des différentes activités. Et nous, on s'est dit, mais ça fait quelques années qu'on se la pose, mais on n'a jamais fait le travail d'enquêter. Et cette fois, on l'a fait, les fusées. Parce que, vous voyez, on entend beaucoup le bon sens populaire, avec toutes ces choses qu'on lance à l'atmosphère. Mais en quantité, qu'est-ce que ça représente? Donc on est parti sans a priori, sans savoir. On avait bien quelques intuitions. On se dit que les fusées qui marchent à l'hydrogène et l'oxygène liquide, a priori, ça fait plutôt de la vapeur d'eau comme fumée, donc c'est pas trop grave. Mais par exemple, les boosters à poudre, on sait que ça produit des choses comme de l'acide chlorhydrique. Donc c'est déjà moins sympa. Et puis il y a tous les étages de fusées qui sont des morceaux de métaux qui contiennent des restes de carburant plus ou moins toxiques qui retombent par exemple dans la mer une fois que la fusée a été lancée. Donc on a fait une enquête qui n'a pas été facile et on s'est aperçu que c'est une part qui est quand même infime, mais qui n'est pas nulle. Donc,
Mais
par exemple, il y a une chose juste.
Oui.
Moi, j'ai découvert une chose dans cette enquête. C'est que, quand on s'est posé la question de savoir combien d'étages retombent, ça représente quelle pollution dans les mers, il y a un chiffre qui est à mettre en comparaison avec celui-là, qui doit être de peut-être quelques centaines de tonnes depuis ou peut-être quelques milliers de tonnes, mais chaque année, il y a environ 400 000 tonnes de containers qui tombent des bateaux, des porte-containers, et qui vont au fond de l'eau. Et dedans, vous avez des écrans plats, du lithium, tout ce que vous voulez, des voitures.
Pour ce qui est pollution, c'est pas peut-être, l'impact pour le moment, en tout cas, du spatial n'est pas si fort. Par contre, il y a la question des déchets spatiaux, sur lesquels vous revenez également.
Absolument, mais ça c'est une autre forme de pollution, ce qui se passe en orbite. À la limite, c'est gênant pour tout le spatial, le lancement d'humains, etc. Mais nous, sur cette enquête, on s'est vraiment concentré sur est-ce que la part du spatial est vraiment importante dans la pollution et dans le réchauffement climatique, toutes les émissions, des fusées, quelle quantité de fusées, quelle quantité de produits toxiques déversés, etc. Donc, on a fait un point pour la première fois et je laisserai les lecteurs.
Mais absolument, c'est ce que je voulais dire, c'est à lire dans Ciel et Espace, les lanceurs sont-ils polluants, mais aussi le scénario du retour des échantillons de Mars. Je vous rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, que nous avons un exemplaire à vous offrir de Ciel et Espace avec inclus le calendrier astronomique 2021, qu'on se le dise. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse auprès des terriens que nous sommes et qui feront peut-être un petit peu moins les malins quand ils découvriront à suivre dans Science et Vie, comment les chats, nous ont domestiqués. À suivre avec Thomas Cavalier-Foll juste après un petit saut de chat et même d'aristochat, signé Thomas Dutronc et Laura Smet sur RFI.
Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. Tout le monde est piqué de spas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. Une cloche, quoi qu'il joue, sa trompette nous rend fous. Ça swing comme un pied. Oui, mais c'est pire que l'ennui. Oh là là, mais... amis, quelle calamité. C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter, ben c'est un quart le seul qui sache. Ils acharnent à swinguer, qui donc danserait encore la gigue avec des nattes, quand tout le monde veut devenir un quart. Une cloche, quoi qu'il joue, bientôt ça nous rend fous. Ça swing comme un pied. Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde veut devenir un cat.
Thomas Dutronc et Laura Smet retombent sur leurs pattes d'aristochat sur RFI et même de chat tout court avec vous, Thomas Cavaillé-Foll, dans Science et Vie. On découvre, contrairement à ce que l'on a longtemps cru ou ce que l'on a longtemps voulu croire, ce sont peut-être les chats qui nous auraient domestiqués. Article signé Anne Deboise dans Science et Vie, Thomas.
Oui, tout à fait. Nous, on a voulu revenir effectivement sur cette relation qu'on a avec les chats, qui est quand même assez particulière.
Ah oui.
Je ne sais pas si vous en avez un, mais moi, par exemple, je n'arrive pas du tout à me faire écouter par mon chat.
Mais oui, c'est ça, c'est lui qui décide. Voilà,
c'est lui qui décide tout le temps, et même si on prend physiologiquement, le chat, il ne montre pas les signes habituels de domestication. Ou alors, ils sont extrêmement tardifs, comme si c'était une espèce qui nous avait résisté ou qui avait résisté à sa domestication depuis très longtemps. Et donc, on a voulu revenir un peu sur cette histoire, notamment aussi parce qu'elle vient d'être complètement réécrite. Hein, la domestication du chat, enfin, en tout cas, notre relation avec cette espèce vient d'être réécrite. Donc, le récit traditionnel jusqu'ici, c'était... Il y a plusieurs espèces de chats sauvages dans le monde, et c'est une seule espèce qui a été... dont sont issus tous nos chats de compagnie, qui s'appelle Felis silvestris libica et qui est originaire du Proche-Orient et du nord de l'Afrique. Le récit traditionnel, c'est que ce seraient les Égyptiens qui se seraient rapprochés des chats il y a 2000 ans, et puis ensuite les Romains auraient ramené le chat en bateau en Europe, et puis en fait le chat il se serait dispersé en Europe un peu avec l'Empire romain, et puis ensuite on l'aurait ramené un peu partout en bateau en Amérique, en Australie, et maintenant le chat il est sur toute la planète.
Or, ce n'est pas tout à fait ça le récit.
Or, c'est pas du tout ça. En fait, récemment on s'est rendu compte qu'il y avait des fossiles de chats en Pologne, et qui étaient, eux, âgés, donc la même espèce, hein, le fameux Felis, dont sont issus nos animaux de compagnie, qui étaient, eux, âgés de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en gros, ces chats, ils n'avaient rien à faire là, parce que le chat est normalement un animal territorial. Donc, ils ne pouvaient pas se retrouver là. Donc, en fait, l'histoire du chat, elle remonte à bien plus longtemps, et notamment au tout début de l'agriculture. Ce seraient les premiers agriculteurs d'Anatolie, du Proche-Orient, qui, lorsqu'ils se seraient déployés en Europe, en fait, ils se seraient déployés avec le chat. Donc on ne sait pas encore trop pourquoi le chat les aurait suivis, mais il commence à y avoir des signes, notamment qu'il ne pouvait pas passer tout seul le détroit du Bosphore. Le chat, il devait prendre le bateau. À ce moment-là, le détroit du Bosphore était submergé. Et donc on pense, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on a aussi ramené un autre animal. Les premiers agriculteurs, ils ont ramené un autre animal qui était la souris. Donc en fait, le chat, il ne nous aurait pas suivi, nous.
Il aurait suivi la souris.
Il aurait suivi la souris domestique, effectivement. Et ça a été retrouvé notamment dans les dents du chat, en particulier, de ces fossiles de chat qu'on a retrouvés en Pologne. On s'est rendu compte qu'il n'avait pas le même régime alimentaire que les animaux sauvages, ni le régime alimentaire que les animaux domestiques, vraiment, comme le chien, par exemple. Il était un peu intermédiaire entre les deux. En fait, on est face à un cas qu'on appelle de synanthropie, c'est-à-dire que le chat, il trouve un intérêt à vivre avec nous, mais il n'en dépend absolument pas. Et ça, c'est super intéressant d'un point de vue de
la relation. C'est rare, oui, pour un animal domestique,
Ben ouais, c'est comme si les chats étaient un peu, en fait, les autres synanthropies qu'on connaît, c'est un peu les rats et les pigeons. Mais bon, là, c'est un peu plus mignon. Mais en fait, on est encore à ce niveau-là de relation avec le chat, finalement. On est encore un peu dans une relation...
Le chat nous aurait suivi. Le chat nous aurait suivi, ne dépendent pas de nous. C'est en suivant l'humain qu'ils ont, au fond, domestiqué le monde entier. Ouais, est-ce qu'ils ne nous manipuleraient pas un peu, le chat? La question est soulevée dans cet article.
Oui, tout à fait. Parce que voilà, alors, en fait, la question de la domestication, c'est est-ce qu'on a modifié la biologie de l'autre? Donc, effectivement, là, ces dernières centaines d'années, années, on va dire, nous, on a réussi à modifier un peu la biologie du chat en faisant des espèces, par exemple. Mmh. Mais c'est ultra tardif, en fait, comme changement corporel ou morphologique. Par exemple, le chat n'a pas diminué de taille, ce qui arrive normalement à toutes les espèces domestiques. Mmh. Lui, il a gardé sa même taille. Donc, on a du mal à toucher à sa biologie. Quant à lui, il nous a refilé un de ses parasites. À hauteur de 50% de la population humaine porte un parasite du chat. Donc, il a réussi à modifier notre biologie aussi.
Ah, et notamment ce parasite.
Ouais, et notamment ce parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii. Il a tendance, en tout cas chez les souris et chez les chimpanzés, qui sont aussi porteurs de ce parasite, à faciliter un peu le rapport avec les chats. On est plus attiré par les chats. Donc c'est assez
drôle, malins, assez les chats. Et oui, et ils ronronnent aussi pour nous, hein, c'est ça. Hein, ils ont développé un langage juste pour nous.
Ouais, effectivement, miaulement et ronronnement, c'est très très rare en milieu sauvage en fait. Et donc c'est un langage qui est spécifique pour l'humain. Donc en fait, c'est vraiment à se demander qui a charmé l'autre en tout cas.
Qui a charmé l'autre, qui a domestiqué l'autre jusqu'à peupler nos écrans aujourd'hui sur Internet. Voilà, de photos de minou. Allez, comment le chat nous a domestiqué? C'est à lire dans Science et Vie ce mois de novembre. Nous avons également un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices, car nous sur RFI, on balance notre chat.
Pour lui, chez moi, c'est un resto. Je trouve partout des boules de poils. Il a chié au fond du frigo pendant un repas familial. Mes amis le trouvent très beau alors qu'il se lâche le trou de balle. Il me coûte un bras en veto. J'aurais dû m'acheter un cheval. Balance ton chat. Ah, paraît qu'il retombe sur ses pattes. Jette du 16e étage. Balance ton chat. Bien meilleur quand c'est plein.
Balance ton chat, extrait d'une parodie dénichée sur le net par Hugo, notre réalisateur, et signé Roman Dauduic. C'est l'heure de donner notre langue au chat et de vous remercier tous les quatre. Thomas Cavaillé-Folle de Science et Vie, Cécile Estienne de Cerveau et Psycho, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace et Philippe Pajot pour la recherche. Je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que vous pouvez peut-être encore gagner quelques exemplaires de tous ces magazines si vous nous les demandez par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, chers amis, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci pour votre écoute attentive, merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, sur RFI, vous retrouvez votre journal.